Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC, les grandes gueules.
C'est avec ambition et bienveillance que je veux aborder les 5 années qui viennent.
Le monde de Macron.
On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais je ne mens pas sur la marchandise.
On s'est fait un pote encore, nous les Français, au Brésil. On s'est fait un copain avec le ministre de l'économie parce que vous savez que la France, par la voix du président Macron, s'est dit opposée à la ratification de l'accord commercial qu'on appelle Mercosur, c'est-à-dire Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay. En fait, pour ratifier l'accord, il faut que les pays signataires montrent qu'ils sont aussi solides sur leurs engagements, et notamment leurs engagements en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique. Et la France doute de l'engagement du Brésil, en particulier avec ce qui se passe en Amazonie. Réponse du ministre brésilien de l'économie.
Un ministre français a dit une fois « Vous brûlez la forêt ». Et j'ai répondu « Vous brûlez Notre-Dame ». Puis j'ai dit « Vous ne brûlez pas Notre-Dame, mais c'est un bâtiment et vous ne pouvez pas l'arrêter, il a pris feu ». Nous, nous avons une zone qui est plus grande que l'Europe et vous continuez à nous critiquer. Notre commerce avec vous était de 2 milliards de dollars au début du siècle en l'an 2000 et avec la Chine il était de 2 milliards aussi. Aujourd'hui, nous échangeons avec vous 7 milliards et avec la Chine 120 milliards. Vous devenez insignifiant pour nous. Vous avez intérêt à bien nous traiter, sinon on va vous envoyer vous faire foutre.
Voilà comment parle le ministre brésilien de l'économie, Thomas Porcher. Ah, et il met en balance, dans la balance les chiffres,
voilà,
ce qui est factuel.
Les chiffres, ben oui, mais
120 milliards, 2 milliards.
Non mais là, c'est... bon. J'ai aucune sympathie pour le Bolsonaro et son gouvernement, je le dis tout de suite. Mais là, on voit bien ce qui se passe en fait au niveau mondial, d'un point de vue économique. Et que les émergents, maintenant, ils veulent plus se laisser faire. Le Brésil est un pays émergent, il fait du commerce avec un autre pays émergent, et c'est fini maintenant. Le G7 de ces vieux pays qui dominent le monde et qui décident en fait comment doit s'organiser le monde, comme ils l'ont fait pendant très longtemps à l'OMC. Aujourd'hui, les émergents, ils disent nous on fait ce qu'on veut, voilà. Et je veux dire, on pourrait avoir le même discours là en Chine, on pourrait avoir le même discours en
ils
Inde ou dans d'autres pays.
Ils l'ont, mais ils sont plus polis. Hein.
Voilà. Voilà. Donc maintenant, les pays émergents ne se laissent plus faire.
C'est...
Alors là, il y a une très mauvaise manière, mais c'est une façon de dire la France n'a pas de leçon de morale à nous donner. On s'organise comme on veut.
C'est là voilà. qu'on acte la fin du néocolonialisme et la fin du colonialisme.
Ou de ces petits pays
on
riches.
On acte le fait que chacun reprend une place en fonction de son nombre d'habitants. Je veux dire, les Chinois aujourd'hui, qui pendant des années, par exemple, ont été dans cette espèce d'humilité qui nous faisait si plaisir à se courber en deux et à être gentils avec nous, aujourd'hui ont commencé à tourner un peu la casaque.
C'est pas comme ça que tu dialogues
d'abord,
maintenant,
non, mais
que tu instaures de nouvelles relations.
Les leçons
quoi.
De morale.
C'est pas en disant allez vous faire foutre.
Les Français sont vus partout quand même.
Comme des donneurs
comme
de leçons.
Comme des néocolonialistes qui donnent des leçons de morale, puisque c'est eux qui sont les plus grands, les plus forts. C'est eux qui savent l'éducation, c'est eux qui savent la culture, c'est eux qui savent tout. Donc partout, effectivement, ils sont pas très très estimés, il faut dire la réalité, même si la France est très estimée en tant que pays culturel, etc. On a un déficit d'amour. Et il y a quelque chose qui s'est joué dans notre façon de se penser, qui aujourd'hui, heureusement, les jeunes qui sont français, qui vont travailler à l'étranger, sont plus du tout dans cet esprit. Mais c'est quelque chose qu'on doit regagner. Et c'est vrai que les pays émergents, donc qui sont devenus puissants aujourd'hui, nous le disent. Voilà, c'est fini. L'époque est finie. Vous êtes ce que vous êtes, et il va falloir faire avec nous. Et c'est nous qui dominons le monde. Voilà.
Oui, c'est sûr que le temps de l'arrogance est terminé depuis longtemps. Et peut-être qu'on n'a pas senti le vent tourner, puisqu'apparemment, on continue de donner des leçons à tout le monde. Ceci dit, je trouve sa façon de parler assez déplorable. Ça manque aussi de diplomatie, parce que effectivement, il y a la balance économique, mais il y a pas que ça. Hein. Il faut pas toujours penser qu'argent. Et je crois que le président Macron est en droit aussi de pouvoir s'exprimer dessus. Parce que je rappelle que, pardon, la forêt amazonienne, c'est aussi la Guyane. C'est pas que le Brésil. Et donc la Guyane, c'est la France, jusqu'à preuve du contraire. Donc je crois que il a la légitimité, en tout cas pour. Alors comme sur la forme.
Oui, t'as raison. On peut aussi leur dire qu'ils font n'importe quoi avec la forêt amazonienne.
Sur le fond, je crois qu'il a la totale légitimité pour s'exprimer sur ce qui se passe dans la forêt amazonienne. Voilà.
Dans le monde de Macron et dans l'actualité, quand même, un mot sur ce monsieur dont on a tous vu les dessins en souriant, dont on a tous lu les aventures du petit Nicolas. C'est la mort de celui qu'on appelait Sempé, tout simplement. Sempé, qui parlait de sa vie et de ses héros et de ses dessins.
Je conserve un assez bon souvenir de mes années scolaires. Je me suis bien amusé, j'ai bien chahuté. Alors, j'aime bien dessiner les enfants pour ça. C'est une sorte d'obligation que j'ai. Je ne peux dessiner que des gens pour lesquels j'ai une sorte de sympathie. Sans ça, ça va pas. Et puis, c'est un autre métier, c'est un autre travail. Et c'est une œuvre de censeur, ce que surtout je ne voudrais pas être, parce que pour moi, il n'y a rien de plus lourdingue et complètement démodé.
Et Jean-Jacques Sempé qui est décédé à 89 ans. Le petit Nicolas, c'est tout le monde connaît les adaptations au cinéma, et c'est 15 millions aussi d'albums vendus du petit Nicolas. C'est un succès phénoménal. C'était sorti en 1960. Le petit Nicolas, c'est le monde de la cour de récré, l'enfance, les copains, mais c'est surtout aussi les disputes familiales, c'est les rapports des adultes, c'est un père dont on voit les difficultés aussi au travail. Sempé, c'était une drôle de vie, j'ai relu vite fait. Il dit, voilà, ma vie a été lugubre et même un peu tragique. Enfant naturel, un père adoptif qui était représentant de commerce, qui allait vendre dans les épiceries des villes natales des boîtes de pâté, de thon, de sardines, d'anchois, des bocaux cornichons. Et quand il faisait un peu plus d'argent, parce qu'à l'époque les gens étaient payés en liquide, devine où il s'arrêtait en revenant de la tournée. Oui. Et ouais, il s'arrêtait au bistrot, et lorsqu'il rentrait à la maison, et ben c'était les roustes ou c'était les scènes avec la maman. Il casse tout, les assiettes, les verres. Et il dit, on faisait des crises de nerfs, on les voyait aussi faire des crises de nerfs. Donc le dessin, son coup de crayon a été pour lui aussi une échappatoire, Étienne.
C'est surtout, c'est une génération en fait, c'est un peu comme le stand-up en fait. C'est une génération où le gag, où il n'y a pas que le gag dans le dessin. C'est-à-dire que un petit peu comme une génération d'humoristes, je pense à Bedos, parce que Bedos n'avait pas que le gag, ou le Luron même, n'avait pas que le gag. C'était pas une suite de gags à l'américaine. Là maintenant, on est devenu complètement américain, et dans le dessin de dessin de presse d'ailleurs, et dans le stand-up. C'est-à-dire qu'il faut faire des gags qui se suivent, et à la limite, il en faut une toutes les 7 secondes, parce que sinon le public s'emmerde. Et là, lui, c'est pas des gags. Il nous met dans une situation, dans un climat, et il nous fait réfléchir à ce que nous sommes nous-mêmes. C'est pour ça que ces personnages sont toujours écrasés par l'environnement. Ces personnages font 1,5 cm et la case fait 20 cm et en fait, ils sont écrasés partout, par la forêt, par l'église, par la violence, et en fait, il nous dit qui nous sommes nous aujourd'hui. Écrasés que nous sommes par le monde qui nous entoure. Et puis, c'est plus une œuvre philosophique d'un penseur qu'une œuvre proprement d'un humoriste.
Ouais, et il avait fait la une du New Yorker. Hein, il dessinait pour le New Yorker, Sempé, ce qui était à l'époque complètement incroyable. Et là, t'as toute une nouvelle génération qui a redécouvert le petit Nicolas grâce au film. Tu connaissais les dessins de Sempé ou pas du tout?
Si. Complètement, mais avec le petit Nicolas, beaucoup. J'avais deux livres, Les Malheurs de Sophie et Le Petit Nicolas, que je relisais en boucle, l'un après l'autre à chaque fois, et que je gardais sous mon coussin. Puisque, oui, parce que les parents, vous savez, éteignaient la lumière, etc. Alors, dès qu'elle partait, ma mère, je rallumais, puis je regardais, j'ouvrais le livre. Et donc, vraiment, c'est vraiment des souvenirs, surtout quand j'avais des parents divorcés. Et vraiment, ces deux livres, je sais qu'ils m'ont accompagnée quand c'était un peu difficile.
Ah oui, tu te réfugiais dans la lecture.
Complètement, mais je les ai relus, je ne sais pas combien de fois. Et puis, avec les déménagements successifs, je les ai perdus. Et ma fille, quand elle a grandi, je lui ai dit, il faut absolument que tu lises ça et tout. Alors, je vais acheter Le Petit Nicolas. Rien du tout. Mais elle me l'a lu 2 secondes, elle me l'a posé, elle me l'a balancé. Elle est dans ses mangas, etc. Et j'étais tellement. Mais c'est bizarre, mais ça m'a fait tellement de mal qu'elle ne l'ait pas aimé.
Ça t'a rendu triste.
Ah, mais ça m'a rendu triste. Je lui regardais les dessins, Clotaire. Enfin, moi, j'étais dans les trucs et tout. Mais vraiment, ouais, c'est vraiment une époque qui part avec presque l'école comme on l'aimait, en fait. Avec,
un peu nostalgique
voilà,
aussi.
Avec des petits gamins chahutants, mais quand même bon enfant, voilà.
Monsieur Thomas Porcher,
non mais
tu as lu ou pas? Non, franchement, Le Petit Nicolas ou les dessins de Sempé ou pas?
En fait, oui.
C'est juste ça passait comme ça.
Voilà, mais qu'on l'ait lu complètement ou comme la fille de Joël, il est passé dans les mains de tous les enfants. Ouais. En fait. Que soit par l'instit, soit par les. À un moment, Enfin, moi, ma mère me l'a acheté. Il est dans la bibliothèque. Il est passé entre les mains de tous les enfants, ce livre. C'est impressionnant. Hein. Donc, qu'on l'ait lu ou pas, hein, qu'on l'ait feuilleté ou qu'on l'ait lu complètement ou qu'on l'ait lu plusieurs fois, il était là. Donc, c'est quelque chose de, voilà, le petit Nicolas, tout le monde connaît. Et même, il y a des gens, moi, je me souviens même que parfois, en début de thèse, des gens mettaient une petite citation du petit Nicolas. Enfin, je sais pas. Donc, c'est quelque chose, voilà, de mythique.
Parce qu'il y avait le génie de Sempé, enfin, son génie, son talent. Et puis, il y avait aussi René Goscinny qui était avec lui. René Goscinny, le scénariste.
D'ailleurs, c'est cette même génération.
D'Astérix, de Lucky Luke, d'Isnogoud, de Gottlieb.
C'est cette même génération.
C'est toujours pareil. C'est la rencontre d'un crayon avec un scénariste. Parce que Goscinny, c'était le trait d'esprit.
Et si tu veux,
c'était les aventures, c'était lui qui les signait.
Ces gens qui sont nés dans les années 20, je pense aussi à des gens comme Ciné, par exemple, qui étaient tout à fait, mais c'est aussi la génération des Cavana, etc. C'est aussi une génération qui veut se démarquer de l'humour un peu agressif, toujours un peu machiste, etc., de ce qui précède, et qui fait de la dérision et de l'autodérision, c'est-à-dire qui se moque en permanence et qui devient un dessin. Et un dessin politique, en fait. Il devient un dessin politique, même si le mot politique est à prendre au sens large du terme. Ça devient un vrai dessin engagé, un vrai dessin politique qui critique notre société et pas seulement les rapports monsieur, madame, la maîtresse, l'amant, etc. Ouais. Comme c'était le cas avant.
Puis c'était des gens qui avaient quand même des vies puisqu'ils ont connu la Seconde Guerre mondiale. Et alors, ils trouvent pendant la Seconde Guerre mondiale, ils trouvent un emploi de livreur de bicyclettes pendant un an. Ensuite, en 1950, il devient représentant en dentifrice en poudre. Ouais. Je sais pas si tu vois t'imagines, tu démarches. Oui, c'est ça, c'est à l'ancienne. T'imagines la force de persuasion. Bonjour, monsieur, dame. Voilà, je vais vous vendre du dentifrice en poudre. C'est nouveau. Ça vient de sortir. Ensuite, il a été courtier en vin et c'est à ce moment-là, en 1950, qu'il commence sa carrière de dessinateur dans la presse et qui s'inspire de son vécu en tant qu'enfant et son vécu ensuite. Ce que lui a amené la vie. Voilà, petit hommage à Sempé. On voulait quand même en parler dans les GG, dans les grandes gueules.